Bail de jeunes, l'émission jeunesse tous les mercredis de 14h à 15h en direct sur Eau de Radio 91.3 FM et sur eauderadio.fr.
Allez, bonjour et bienvenue de retour pour notre émission Bail de jeunes. On a eu quelques ratés la semaine dernière et la semaine d'avant, mais on revient pour ce 23 décembre. Ça nous semble important à deux jours de Noël de bien sûr donner la parole à notre jeunesse puisque c'est l'objet même de cette émission Bail de jeunes. Alors pour ce 23 décembre, le sommaire, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des futurs journalistes. Ils ont 21 ans, 23 et 19 ans. On reçoit donc aujourd'hui Marie-Amélie Husson, Yvan Branchy, donc tous les deux actuellement en seconde année à l'École française de journalisme de Bordeaux, ainsi que Lucas Segui en service civique à Eau de Radio. Il est diplômé, lui, d'une licence information et communication, mais il souhaite aussi intégrer l'année prochaine une école de journalisme. On verra suivant les concours, parce que c'est pas facile d'y rentrer. Donc ils vont nous présenter leur parcours, leur motivation à faire ce métier qui, on le sait, hein, en ce moment est compliqué, controversé. On sait que c'est pas facile non plus d'exercer, puisque la presse va pas très bien hein, en ce moment dans notre pays et puis je crois ailleurs dans le monde. Leur conception du métier de journalisme, et là actuellement ils sont à Eau de Radio, alors c'est encore une autre conception Eau de Radio, puisqu'on est si vous ne connaissez pas, une radio locale associative. C'est une autre façon de faire, c'est une autre façon d'appréhender les choses, et c'est avec c'est autour de tout ça qu'on a envie de les interroger aujourd'hui et vous faire partager leurs expériences sur Eau de Radio. Et puis aussi on aimerait parler à quelques jours de Noël de savoir comment ils vivent cette période si singulière, cette période de Covid qu'on vit malheureusement depuis plus d'un, presque un an maintenant. Et donc quand on a 19, 21 ans, 23 ans à deux jours de Noël, comment on perçoit cette période et aussi ce regard de futur journaliste sur 2020. Voilà, c'est tout de suite. On va commencer peut-être avec Amélie. Marie-Amélie.
Oui, bonjour à toi. Sandrine, bonjour à tous.
Voilà, Lucas, peut-être un bonjour aussi aux auditeurs. Lucas, que vous allez entendre régulièrement sur ces ondes, hein, puisqu'il est en service civique jusqu'au mois de juin avec nous, Lucas. Et donc, il fait aussi les brèves d'infos. Marie, vous avez aussi fait quelques brèves d'infos. Vous avez participé au podcast, à cette création. Je vous en remercie encore. Et puis, Yvan, bonjour à toi.
Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui.
Oui, alors je vous ai pris un petit peu au dépourvu, hein, puisque ça fait pas très longtemps qu'on a décidé de vous donner la parole et je vous ai quand même demandé de réfléchir aux thématiques. Alors on va présenter votre parcours pour commencer. Allez Marie, on commence avec vous. Donc vous êtes la plus jeune, vous avez juste 19 ans, donc ça veut dire que vous avez intégré cette École française de journalisme peu de temps après le bac, si ce n'est juste après le bac.
Oui, c'est exact. J'ai intégré donc l'EFJ, l'École française de journalisme plurimédia à Bordeaux, juste après bac, donc post-bac. J'ai passé un bac ES et je me suis directement orientée vers cette école en passant les concours parce que le journalisme, c'est un métier que je souhaite faire depuis mes 10 ans. Donc pour moi, c'était un peu une évidence.
Qu'est-ce qui vous a motivé à l'âge de 10 ans de se dire qu'on va être journaliste plus tard ?
Et c'était tout d'abord quand j'ai commencé à regarder le journal avec mes parents, à me renseigner sur l'information. J'aimais beaucoup lire. Dès mon plus jeune âge, je passais mes heures au bord de la plage à lire des livres. Et j'ai toujours aimé ça, toujours aimé écrire, tenir un journal intime. Quand j'étais en sixième, je participais au journal de mon collège. Ensuite, j'ai participé au journal de mon lycée. Et ça a toujours été quelque chose comme une évidence pour moi que de transmettre l'information, surtout de nos jours, à notre population, notre société, aux Français. Je pense que c'est quelque chose d'important et qu'on a besoin des journalistes au jour d'aujourd'hui.
Alors on va y revenir à ça justement. On va peut-être donner la parole à Yvan parce que vous êtes déjà vous aussi en école de journalisme, donc en seconde année dans la classe de Marie-Amélie. Alors vous, votre parcours ?
Alors, mon parcours, il a été un peu semé d'embûches, contrairement à Marie-Amélie, que je félicite, ici présent. J'ai eu un bac ES au lycée, à Lyon, et ensuite, je me suis dirigé vers une licence d'information et communication à l'université Lyon 2. Et le problème, c'est que j'avais un peu du mal, en fait, à respecter le processus un peu trop théorique de la faculté, entre les cours magistraux et les travaux dirigés. Et en fait, c'est vraiment la pratique qui m'a manqué. Donc, j'ai fait les 3 ans. J'ai quand même validé ma licence. Et après, je me suis dit, mais en fait, le master journalisme, si c'est encore de la théorie, c'est pas fait pour moi. Et à ce moment-là, en fait, c'était dans une période de ma vie où j'avais envie de m'évader, de changer d'air. Donc, j'ai tout plaqué, on va dire. Et je me suis intéressé sur l'EFJ, où je suis avec Marie-Amélie Husson. Et ça a été l'alternative idéale pour progresser. Et tant pis pour les années, je me dis que c'est toujours de l'expérience gagnée. Et que l'important, c'est la finalité. Donc,
vous sortez avec un bac plus 3, vous rentrez dans une école de journalisme. Je ne trouve pas que c'est des années perdues quand même. Vous n'avez pas trop traîné non plus.
Oui, après, c'est sûr, mais on se dit toujours on veut aller à l'IJBA, on veut aller à l'école de journalisme de Lille, les écoles un peu réputées et classées par l'État. Là, c'était une école privée que personnellement, je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'était un pari. Pour le moment, je trouve qu'il est plutôt gagnant. Après, on verra au bout des 3 ans, quand le diplôme sera là et que le marché du travail pourra s'ouvrir. Mais pour le moment, je profite du cursus scolaire, je profite des opportunités de stage qu'on a avec nous et j'essaie de m'améliorer du mieux que je peux.
Depuis quand vous savez que vous voulez devenir journaliste,
hein ? Alors, depuis tout petit, en fait. Dès que j'ai eu 6 ans, j'ai vu des vidéos de moi récemment où je m'amusais à être le remplaçant de PPDA. Et je faisais des reportages à Noël sur mon père. Enfin, c'était des souvenirs assez marrants. Et en fait, depuis tout petit, j'adore les médias, en fait. Ouais. Avant d'aimer le journalisme, honnêtement, j'ai surtout aimé les médias, en fait. Pouvoir parler et pouvoir donner un contact avec les gens. Et du coup, par effet de conséquence, on donne de l'information, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseigné sur l'information à donner. Et ensuite, tout ceci est venu un peu plus tard, quoi.
Alors, vous parlez vous adorez les médias. Alors, Marie, Amélie, on comprend bien que vous, c'est plutôt l'écrit que vous aimez. Et vous, Yvan ?
Alors, moi, ça a été très, 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 très télé. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait tourner autour de la télé, les coulisses de la radio, les coulisses de la télé. C'est pour ça, même quand je vois ça, je suis comme un enfant, en réalité, au début. Et c'est vraiment ce fait d'avoir un micro en face de soi et de parler, de se dire qu'il y a des gens qui s'écoutent. Je trouve ça incroyable.
Ah oui, d'accord. C'est très bien. On va donner la parole à Lucas, mais on va y revenir sur ce que vous dites qui est vraiment intéressant, Yvan. Allez, Lucas, donc un autre profil, Lucas, parce que vous n'êtes pas encore en école de journalisme, vous avez préféré l'université, mais enfin, finalement, un peu comme Yvan, sauf que vous allez plutôt vous orienter vers un master après, et vous avez fait le choix de pratiquer, c'est-à-dire en venant à Odo Radio, de faire un service civique et de pratiquer pendant un an. Je vous laisse parler quand même, parce que je ne vais pas tout raconter. Alors, Lucas, parlez-moi de votre parcours. Enfin, ouais. Parlez-nous de votre parcours.
Alors, moi, la différence avec mes deux camarades, c'est que je viens d'un bac scientifique. C'est pas que par un amour des sciences, c'est aussi parce que c'était une époque où j'étais pas encore calé, je savais pas exactement ce que je voulais faire, vers quoi je voulais m'orienter. Et c'est vrai que tous les profs m'ont dit, fais un bac scientifique, comme ça ensuite ça pourra t'ouvrir toutes les portes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a ouvert les portes, parce que du coup je suis parti en licence information communication du coup à Bordeaux, aussi pour changer d'air, parce que moi je viens de Limoges et je me suis dit j'avais envie de vivre une nouvelle vie, et donc je suis rentré en information communication. Je suis assez d'accord avec ce que disait Yvan sur le côté très très théorique, et c'est vrai que c'est vraiment adapté à un profil spécial, c'est-à-dire qu'il y a personne derrière nous et il faut se mettre à travailler tout seul, mais d'un côté c'est vrai que c'est quand même riche parce qu'on a la chance d'avoir des enseignants, des gens qui sont en pointe dans leur domaine, et donc forcément ça nous apporte beaucoup. Après c'est vrai que là le contexte du Covid a été assez particulier et m'a poussé à prendre un peu de recul. Déjà pour me faire l'expérience en venant ici à O2, c'est vrai que comme vous le disiez, j'ai la chance de pratiquer tous les matins en faisant les brèves et à m'habituer à parler derrière un micro, à côtoyer une équipe, etc. Et ça me laisse le temps aussi donc d'affiner mon projet et de savoir ce que je vais faire après. En l'occurrence, c'est vrai qu'on parlait de l'IJBA tout à l'heure, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Après, il y a beaucoup de demandes, mais c'est vrai que cette année Covid où tout est un peu bloqué, tout est un peu remis en cause, ça m'a permis de me poser, de prendre le temps et de me dire je vais faire ça, je vais acquérir l'expérience et ensuite on verra quoi.
Mais très motivé quand même pour exercer ce métier. Hein.
Ouais. Alors moi, pour le coup, c'est un peu plus récent que mes collègues qui sont passionnés depuis qu'ils ont 10 ans, etc. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mal à savoir ce que je voulais faire, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui m'intéressaient. J'aime beaucoup écrire et puis je suis intéressé par l'actualité, donc c'est venu assez naturellement. C'est vrai que de base, ce qui me plaît beaucoup, c'est le sport. Et franchement, en fait, c'est ce que je me suis dit quand on m'a parlé de journalisme. Je me suis dit, c'est quand même l'opportunité de couvrir, de traiter ce qui nous intéresse et d'en parler, de le raconter aux gens. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, c'est ça qui m'a fait pencher vers cette voie-là, ouais.
Alors justement, ce que j'aimerais savoir, c'est votre conception du métier de journaliste. Parce que quand on a 6 ans, on voit les choses différemment. Maintenant que vous êtes en pratique, c'est-à-dire vous, Lucas, à travers un service civique, et tous les deux, Yvan et Marie-Amélie, à travers votre formation, ça a dû changer des choses. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi être journaliste? C'est quoi votre conception de ce métier? Allez, Marie, on recommence avec vous, Marie-Amélie.
C'est tout d'abord la liberté d'expression, pouvoir donner la parole à la population, aux citoyens, aux Français. C'est aussi relayer l'information, mais la relayer d'une bonne manière, parce que dans cette période de réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'engouement autour de tout ça. Et le journalisme, c'est aussi parfois prendre du temps et pas faire la course à l'information, mais en ressortir la bonne information et faire relayer les bonnes choses. Pas d'incitation à la haine, etc. C'est vraiment donner la parole à la diversité, à la liberté et la liberté d'expression qui prime avant tout.
Merci Marie-Amélie. Yvan ?
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire
Marie. Plus près au micro.
Pardon, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marie-Amélie. Le journaliste, c'est pour moi une personnalité publique, en fait. À partir du moment où on est journaliste, on sait qu'on est soumis à la critique et on peut être soumis à... On est un intermédiaire en fait entre l'information et le peuple. Donc on se doit et on a l'obligation de dire une vérité, une information vraie et absolue qui doit être travaillée et enrichie. Et c'est pour ça, comme a dit Marie, à l'heure où les réseaux sociaux sont en totale évolution, où n'importe qui, n'importe quand peut témoigner et donner son opinion et dire absolument ce qu'il veut, c'est important que le journaliste soit là et c'est important qu'il rectifie le tir, pardon. Et voilà.
Et Lucas ?
Pour moi, le journalisme, tout ce qu'ils ont dit, évidemment, est juste, mais c'est y a évidemment le côté utilité sociale, etc. Mais pour moi, il y a aussi un enrichissement personnel, c'est-à-dire que c'est une opportunité de rencontrer beaucoup de gens, de parler avec plein de monde, d'être au fait de plein de sujets, et ça te permet d'aller vers des domaines auxquels tu ne serais pas forcément intéressé avant. Et c'est une ouverture et un enrichissement personnel, surtout.
Alors là, c'est vos motivations et le rôle sociétal d'un journaliste aujourd'hui, à un moment où quand même, il y a les réseaux sociaux certes, mais il y a aussi une défiance énorme vis-à-vis des journalistes, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus, il y a plusieurs formes de journalisme, plusieurs façons de faire, plusieurs convictions. Vous vous situez où dans tout ça et qu'est-ce que, pour vous, c'est ce rôle-là, c'est quoi vraiment le rôle d'un journaliste? Vous pouvez prendre la parole, je vais pas... voilà, Marie, Amélie, je vous sens... vous avez envie de commencer.
Moi, je pense que justement, nous, futurs journalistes, la nouvelle génération qui arrive, on a d'autant plus un rôle important, car à l'heure actuelle, la confiance envers les journalistes, envers les médias, elle est sur une pente glissante. De moins en moins de gens ont confiance ou pensent que les informations sont erronées. Et nous, en tant que futurs journalistes, qui vont justement être très habiles sur les réseaux, sur le plurimédia, notre but, c'est de faire justement énormément attention à comment on va donner l'information pour essayer de redonner confiance aux gens et envers les médias, de retransmettre ces valeurs-là que, justement, comme disait Yvan, on est l'intermédiaire entre tout ce qui se passe, l'information et la société et le peuple, entre guillemets. Donc je pense que c'est notre rôle, c'est d'autant plus de faire attention et prendre encore plus en considération la baisse de confiance qui arrive, car nous, on le voit arriver, vu qu'on est dans la nouvelle génération, on voit le manque de confiance grimper à l'échelle, et je pense que du coup, il faut qu'on fasse d'autant plus attention à tout ça.
Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, Lucas. Ouais.
Ouais, en fait, pour moi, ce qu'il vient de dire est extrêmement juste, parce que la difficulté, c'est de savoir où se situer. Parce qu'on n'est pas non plus là pour, par exemple, soutenir le gouvernement. Je prends l'exemple des vaccins. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je suis plutôt pour la vaccination, mais notre rôle, c'est plutôt d'exposer aux gens la réalité des choses. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles il y a un manque de transparence, notamment au niveau des commissions, des laboratoires, etc. Mais pour autant, il faut quand même essayer de travailler à instaurer ce climat de confiance et tout, mais ça passe par du travail juste et par de la vérité, de l'authenticité, à mon avis.
Ouais, du coup, pour rebondir à ce que vous venez de dire, déjà, je voudrais dire que je peux comprendre que les gens soient déviants vis-à-vis des journalistes, honnêtement. Quand on voit les grosses affaires qu'il y a eu rien que dernièrement avec Xavier Dupont de Ligonnès ou l'employé de l'Hypercarcher, par exemple, lors des attentats. Le fil à l'info, en fait, c'est que maintenant, la plupart des médias veulent être absolument les premiers sur l'actu. Et ça, je trouve ça insupportable, quoi. On est tous là, quand il y a une actualité qui sort, on reçoit tous une notification sur nos téléphones, on reçoit 6 médias différents, c'est la course au premier, c'est la course à l'audimat. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient enfin méfiants vis-à-vis de ces médias, parce que les médias, on le sait, ils sont détenus par des gros groupes. Il y a une réalité d'entreprise derrière. Ils doivent faire du chiffre, ça doit être rentable, ce qui est normal aussi. Mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, pour on va dire le citadin lambda, ça soit compliqué de savoir quoi regarder et quand regarder. C'est-à-dire que quand savoir que cette information est juste et quand savoir qu'elle est fausse. Parce qu'on regarde sur Facebook, par exemple, des informations, il y en a absolument partout, de n'importe quelle page. Et même nous, quand on était plus jeunes, on y croyait. On se demandait si c'était vrai et on essayait de notre côté, quoi. Donc, pour moi, notre rôle à présent, il est déterminant parce qu'en fait, il va être de capter les générations actuelles parce qu'on a eu je sais pas si c'est de la chance, mais dans tous les cas, on a grandi avec les réseaux sociaux, on a grandi avec les nouvelles technologies, donc on sait les maîtriser. Et les générations actuelles et les générations qui vont venir vont grandir avec ces mêmes réseaux-là, voire qui vont même être développés. Et donc je pense c'est important qu'on puisse s'adapter et être performant sur ces plateformes-là, parce que selon moi, c'est là où réside l'avenir principal du journalisme.
Et en même temps, vous avez une sacrée concurrence qui sont les citoyens, finalement, puisque ce qui est positif, et peut-être, il y a du positif et du négatif, c'est que tout le monde peut s'exprimer avant, il n'y avait que les journalistes et les élites. Donc là, maintenant, aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer. Qu'est-ce qui fait la plus-value aujourd'hui d'un journaliste par rapport à ces... Il y a aussi des lanceurs d'alerte, on le sait, hein, des citoyens qui sont lanceurs d'alerte. C'est quoi la plus-value aujourd'hui d'un journaliste? C'est quoi l'enjeu de cette formation de journaliste dans l'avenir?
Eh ben, déjà, il y a un réel travail d'écriture et d'analyse, de recherche d'informations. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va nous dire A que forcément c'est la vérité absolue. Non, il faut d'abord concerter B, C, etc. pour se dire que oui, ce qui a été dit est vrai ou ce qui a été dit est faux, quoi. Mais il faut pas croire le premier venu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment enquêter, et ça prend du temps en fait pour faire ça. Ça prend vraiment du temps. C'est pour ça que quand sur quelqu'un, un monsieur X balance quelque chose sur Twitter, il faut s'en méfier. Et le problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont croire ça en fait, et qui vont se dire que lui, par exemple, dit ça, c'est-à-dire qu'ensuite tous les médias vont dire ça, que tous les médias pensent ça, et du coup, bah, ça donne un côté méfiant.
Alors, je l'avais lu, je le reprends tout de suite, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu de parler de ça. Une fake news, par exemple, se répand 6 fois plus vite qu'une vraie information. C'est quand même incroyable. Vous portez une responsabilité énorme. On est, je pense, à un tournant sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore quoi faire parce qu'on parle de liberté d'expression. Effectivement, est-ce qu'on limite un petit peu ces fausses informations qui sont des fois des enjeux politiques derrière, il y a vraiment des enjeux. On sait qu'aussi tout ce qui est radicalisation se passe sur ces réseaux sociaux. Ces fausses informations, elles ne sont pas données comme ça au hasard par n'importe qui. C'est difficile des fois de les déceler. Vous portez cette responsabilité. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, vous, au sein de vos écoles?
En fait, à mon sens, le vrai problème aujourd'hui, c'est le temps du processus d'information. C'est-à-dire que, comme le disaient mes collègues, on est sur un monde où il y a de plus en plus d'informations, et en même temps, il y a de plus en plus d'immédiateté, ce qui veut dire que le processus d'information, de contact, de vérification, etc., est beaucoup plus bâclé, et on arrive sur une qualité de l'information qui est moindre. Et à mon sens, c'est là-dessus que le journaliste est le garant de ça, en disant « je préfère prendre le temps » quitte à sortir ça après les autres, mais en étant sûr, parce que c'est comme ça aussi qu'on gagne la confiance, quoi.
Le problème, justement, c'est qu'en fait, on est dans un système d'actu chaude pour l'actu immédiate et l'actu froide. Et aujourd'hui, en fait, les médias sont dans une logique, dans une course au clic, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être le premier pour avoir le plus de clics, pour avoir le plus de revenus. Et si demain, et on fait une rétrospection d'une affaire qui est sortie il y a une semaine, personne n'ira dessus, en fait.
Exactement.
Parce que ça n'intéressera plus personne, il se passera autre chose ailleurs.
Et parce qu'aujourd'hui, ça je crois qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui sont sorties, comme quoi les Français prennent beaucoup moins de temps, par exemple, de lire la presse quotidienne régionale, les quotidiens, etc. Et donc, il y a cette difficulté de concilier le fait de passer beaucoup moins de temps à s'informer et en même temps de vouloir savoir beaucoup plus de choses. Et c'est là que, forcément, le journalisme doit s'adapter. Mais sans laisser de côté les réseaux sociaux, parce que critiquer les réseaux sociaux et les blâmer, ça va pas aider, parce que les gens, au contraire, seront sans les médias et iront que sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un espèce d'équilibre à trouver où l'utilisation des réseaux sociaux par les médias doit être optimale de manière à restaurer la confiance, quoi.
En tout cas, votre regard, il est très important parce que c'est effectivement vous détenez, comme tu le disais, Yvan, une pratique. Vous êtes né dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mon cas à moi exactement. Donc cette maîtrise, ce regard. En même temps, vous êtes tout jeune. Vous arrivez juste en formation dans une école avec des stages. Est-ce que justement cette formation, elle a aussi un petit peu changé vos modèles, un petit peu du journalisme, parce qu'il y a aussi, on sait, beaucoup de jeunes qui ont envie d'être journalistes parce qu'ils ont ces modèles-là. Est-ce que vous, ça vous a fait apporter réflexion? Quel regard vous avez aujourd'hui sur ce métier, en fait? Et en plus, on y viendra peut-être après une pause musicale, on va parler de cette expérience à O2 Radio, qui va être un contre-modèle, des fois, de ce qu'on... On n'est pas sur un journalisme de clic, par exemple. On n'est pas là-dessus. Donc, on va... J'espère... Maintenant, ça fait quelques jours que vous êtes avec nous, hein, pas énormément encore, mais quelques jours, ou peut-être justement nous dire qu'est-ce que vous a... Est-ce que ça vous a apporté réflexion sur le plus vieux média qu'est la radio d'ailleurs, hein, puisqu'on fêtera les 100 ans l'année prochaine. Alors Marie-Amélie, désolée parce que je lance toujours le pavé pour vous. Alors, est-ce que vous avez, ça vous a changé quelque chose, vous, depuis l'âge de 6 ans? Quels étaient vos modèles à 6 ans d'ailleurs?
Alors, moi, à 6 ans, je me souviens pas exactement des modèles. C'était plus, voilà, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est cache-investigation, enquête d'action, c'est les enquêtes, etc. Et c'est vrai que quand on arrive en école journalisme, on se dit, ah ouais, moi, je vais faire comme Élise Lucet, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, on se rend vite compte que on fera pas ça tout de suite, que non, avant ça, il va falloir d'abord... se faire son réseau et se faire sa place. Et pour se faire sa place, c'est pas aussi facile. Et au final, nos professeurs nous apprennent vite qu'on va pas écrire que des sujets qu'on aime et que sur ce qu'on veut faire. Par exemple, il y en a beaucoup dans ma classe qui veulent faire du foot et qui veulent écrire que sur du foot. Et on nous apprend que faut aussi faire des concessions et parfois, ben, accepter d'écrire des articles sur des sujets qui nous intéressent pas énormément. Premièrement parce qu'en plus ça enrichit notre culture générale et en plus de ça parce qu'il faut la capacité de journaliste et la formation qu'on nous forme aujourd'hui en plurimédia, c'est pouvoir être capable de s'adapter à n'importe quel terrain et pas être fort que sur un sujet mais fort sur tous les sujets. Et c'est vrai que quand on arrive on s'imagine qu'on va direct être super connu, faire des super trucs qu'on a toujours eu envie de faire, et non, faut aussi passer par les trucs qu'on a un peu moins envie de faire pour arriver là où on veut en être à l'heure d'aujourd'hui.
Et le regard critique par rapport à avant, et puis depuis que vous êtes en école de journalisme, est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont changé?
Ah oui, moi je vois, bah, par exemple, du coup j'étais beaucoup plus écriture, puis au final j'ai changé de direction, maintenant j'aime beaucoup aussi la télé et le montage, et je vois, avant je regardais le 20h, pour moi c'était rien d'exceptionnel, quoi. C'était une vidéo avec quelqu'un qui parle, voilà, et depuis que je suis en école de journalisme, je me pose devant le 20h avec mes parents, et là je me dis, ah ouais, là il a bien coupé, là la phrase qu'il a dit c'était bien, ça c'était un peu moins bien, ça j'aurais fait différemment, enfin du coup on se retrouve à la moindre vidéo, même sur YouTube, etc., qu'on regarde, on observe comment les gens ils la coupent, comment ils la montent, les effets qu'ils ont ajouté, etc. On se dit ça serait pas mal, ça c'est une bonne idée, ça on l'aurait fait différemment, et du coup on a totalement un œil différent. Même quand je regarde des films, maintenant je vois plus du tout ça pareil qu'avant, juste je me mettais devant mon film et je réfléchissais pas, alors que actuellement...
Ça c'est sur la technique et sur le traitement de l'information.
Oui, aussi, bien évidemment, quand je regarde les reportages, ou encore une fois, j'aime beaucoup Lise Lucet, donc je regarde beaucoup ses investigations, je regarde beaucoup comment elle fait, et comment il traite l'information. Parfois on est d'accord, parfois on se dit qu'on l'aurait fait différemment, parfois on se rend compte que la manière, parce que les mots sont si très importants dans le journalisme, et on se rend compte que ben un certain mot, il peut être mal interprété dans le message, du coup, alors que en fait ça veut dire complètement autre chose, mais ça peut porté à confusion. Et donc on a beaucoup plus un œil critique, que ce soit donc sur le traitement de l'information, la manière de parler ou de s'exprimer des journalistes, ou les questions qu'ils posent lors des interviews, ou le montage, etc. Enfin, je trouve qu'on a un œil beaucoup plus critique qu'avant.
Yvan ?
Ouais, du coup, pour rebondir, déjà, je voudrais dire en premier lieu que dès qu'on est arrivé à l'école, la première chose qu'on nous a dit, c'est si vous voulez de l'argent, ne soyez pas journaliste.
Ouais, ça c'est bien.
C'est clair et net. Aller en communication, aller ailleurs, mais surtout ne faites pas du journalisme, parce que en fait, et même moi en fait, quand j'étais petit, quand on voit les journalistes à la télé, dans les grosses radios, on s'est dit mais ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils veulent. On voyait les articles, telle personne gagne 20 000 € par mois, ça fait rêver, c'est sûr, ils sont là, ils viennent à la télé. Moi longtemps j'ai cru que le présentateur du 20h, il venait à 19h45 pour présenter son JT, et je pense qu'il y en a beaucoup encore qui pensent ça, honnêtement. Et c'est pour ça, quand je suis rentré dans cette école, bah c'est là en fait qu'on voit l'envers du décor, et on voit que le travail qu'il y a derrière, C'est-à-dire, comme a dit Marie sur la technique, c'est incroyable en vrai, tout ce qui est effet, production, il y a un travail qui est monstrueux. Et surtout, en fait, pour l'information, comme a bien dit Marie, c'est chaque mot est compté, chaque mot est précis, l'intonation aussi de la voix ou lors d'un papier écrit, la façon d'écrire est ultra importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le temps, qui s'améliore continuellement. Et je voudrais rajouter aussi qu'en fait, les médias, c'est quelque chose d'important aussi aujourd'hui dans la société. Et j'espère que quand même, au fil du temps, on reprendra un peu notre titre de noblesse, en fait, vis-à-vis de la société. Parce que, comme vous l'avez dit, sans les médias, il n'y a pas de démocratie. Et je pense qu'on reste et qu'on restera un des piliers de cette démocratie.
Oui, ça, c'est le quatrième pouvoir. Hein. Ça, voilà, on peut pas être une démocratie sans médias, sans avoir une information libre. Ça, c'est évident. On va revenir sur cette thématique. C'est pour ça que je vous parle de votre parcours et de la responsabilité que vous avez. Peut-être que vous en avez pas totalement conscience encore. C'est des choses justement où vous allez tâtonner. Effectivement, il y a ce rêve au départ d'être journaliste pour être connu. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être journaliste. C'est beaucoup de travail pour un salaire finalement pas si important que ça et une grande responsabilité. Et vous, Lucas ?
Mais en fait, pareil, c'est vrai. Genre, il y a vraiment 2 mois, c'est-à-dire que le mois avant d'entrer dans les études de journalisme, qui, comme le disait Yvan, rêvait en se disant bon, je vais réussir. Je vais faire ce que j'aime. Et c'est vrai que et c'est vrai que quand on rentre dans les études, on est directement mis au fait par des gens qui sont dans le métier, par des gens qui connaissent, qui nous disent non, tous tes rêves t'arrêtent et tu vas voir que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices aussi, notamment personnels, parce que c'est des horaires compliqués. C'est notamment pour les pigistes une précarité de l'emploi avec des salaires qui sont pas fixes, des revenus qui évoluent, etc. Mais c'est vraiment un métier passion et c'est plus pour ça qu'on le fait. Et c'est vrai qu'on a une vision qui évolue avec les études, en plus de nous former. Moi, notamment en information communication, j'ai beaucoup été formé aux techniques d'écriture, etc. Mais on est aussi, entre guillemets, mis au courant de cette réalité, comme quoi il faut arrêter de rêver, et puis maintenant, faut bosser, quoi.
En même temps, c'est bien, c'est noble, je trouve aussi, de travailler, avoir un métier passion. Et c'est aussi une responsabilité, envie d'agir sur son pays, non ? C'est peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui revient chez vous. On a envie de faire ce métier pour agir, pour justement cette démocratie, pour donner, informer les gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez conscience, en fait, qu'on peut aussi avoir une revendication personnelle à faire ce métier ?
Ouais, bah moi, personnellement, par exemple, c'est quelque chose qui m'a motivé aussi, parce que je trouve que c'est un métier où on peut laisser une trace, entre guillemets. C'est-à-dire que on peut se dire que telle personne, par exemple moi, potentiellement demain je pourrais être l'informateur de quelqu'un, et je trouve ça incroyable en fait, je trouve ça vraiment beau de se dire qu'il y a des gens qui puissent compter sur moi. Franchement, ça fait rêver. Donc forcément ça rentre en compte aussi, quoi. C'est d'être le médium, quoi.
Ok, alors on va faire une pause musicale. Je vous ai demandé de choisir soit des extraits de ce que vous avez déjà réalisé, soit des musiques, alors comme c'est un petit peu tard, vous n'avez pas forcément eu le temps, des musiques qui ont un lien avec vous, avec votre parcours, avec la thématique. Alors qui commence ? Qui a choisi quoi et qui commence ? Allez, Yvan.
Alors ça va être la mienne, ça va être Indila, Ainsi va la vida.
Alors pourquoi ?
Parce que c'est une chanteuse que j'ai découverte en 2013, quand elle était en plein boom. Et moi, je ne suis pas du tout habituellement dans ce registre musical. Je suis plus rap, hip-hop, voilà, les jeunes de mon âge, majorité. Et en fait, elle a apporté une touche de fraîcheur. Et je ne sais pas, en fait, ses chansons les plus connues m'ont parlé quand c'est une période un peu délicate de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, en plus, elle est revenue cette année en 2020. Et entre 2013 et 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un petit hommage à la vie ce soir.
Allez, super, pour le 23 décembre, c'est super, c'est ce qu'on demandait aussi. Hein. Merci Yvan, à toi.
C'était un triste soir, comme il y en a par milliers, quand cet homme est venu me voir pour parler. Et même s'il était tard, qu'on m'attendait pour dîner, je savais que c'était lui que j'attendais. Et je l'ai vu sourire, j'ai vu ses yeux me dire, noyé dans un soupir, reste à mes côtés. J'ai pu sentir son plus jamais nous n'allons être séparés. Avouez que c'est bizarre de prétendre pouvoir aimer l'inconnu et de se laisser chavirer. Mais je l'ai vu sourire, j'ai vu ses yeux me dire qu'il m'aimerait à mourir, qu'il me chérirait. J'ai pu sentir mon cœur vibrer à 100 à l'heure et je n'aurai plus peur quand vous me direz: non mais qu'est-ce, tu t'embêtes, tu te prends la tête, ce gars-là n'est pas net et il est fauché.
Donc c'était Indila, ainsi Balabida, de retour pour notre émission Bail de Jeunes sur O2 Radio 91.3 www.o2radio.fr. Aujourd'hui, on est en présence de Yvan, Marie, Amélie, Lucas. Ils nous parlent donc, ils sont actuellement en formation. Alors pour Yvan et Marie, Amélie, en formation seconde année de l'école française de journalisme. Lucas, lui, il est en service civique à O2 Radio. Tous les trois veulent devenir journalistes. Donc on parle de cette formation. On parle de ce métier hein, qu'ils affectionnent et qu'ils découvrent hein, aussi, puisqu'ils sont donc dans seconde année à travers la théorie, mais aussi la pratique, puisqu'ils sont actuellement en stage à O2 Radio. Mais vous en avez fait d'autres des stages, et on va en parler justement de ces premières expériences. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué? Peut-être rappeler les stages que vous avez déjà réalisés, et s'il y a des expériences qui vous ont marqué, qui vont changer votre façon de voir ce métier, cette conception du métier. Allez, à Marie-Amélie, je suis désolée à chaque fois, parce que Yvan, il est un peu reculé, on ne sait pas si
non,
il veut prendre la parole.
J'attends.
Ah, d'accord. Alors, Marie-Amélie.
Alors, oui, donc moi, je trouve que les stages, en fait, c'est la partie la plus importante de notre formation, parce que c'est vraiment celle qui nous permet d'apprendre au sein du métier, de nous rendre compte de comment ça marche, du travail qu'il y a derrière, de réaliser de vrais projets, qui après, en plus, confectionnent une vitrine pour nos futurs emplois et nos futures demandes d'emploi. Donc moi, j'ai fait un premier stage dans une web télé à TV07 en Ardèche. Parce que voilà, je viens d'Ardèche. Et c'est vrai que c'était une super expérience parce que c'est pas forcément un média très connu. C'est une télé associative, donc avec des bénévoles qui ne sont pas payés et qui font ça en dehors de leurs heures de travail. Mais c'était super intéressant. On a vu plein de choses. Le fait est que, vu que c'était une télé associative, ils avaient pas de... Justement, ils avaient pas la course à l'info, à l'actu chaude, à ce qu'ils ont le droit de dire, ce qu'ils ont pas le droit de dire, comme d'autres médias rémunérés et très reconnus en France. Et donc, on a pu voir plein de choses. Voilà, je suis allée voir une ferme de chèvres, un élevage aussi de vaches. J'ai vu plein de choses différentes, en fait, et même niveau personnel et culture générale, ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a beaucoup appris. Et de même pour O2 Radio, parce qu'O2 Radio, donc moi, la radio, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Je m'étais pas du tout penchée sur le sujet. J'étais vraiment dans ma tête vidéo. Et au final, c'est une super bonne expérience parce que j'adore parler. Et du coup, parler derrière un micro, ça me correspond parfaitement aussi. Et du coup, c'est aussi une super expérience. On a pu en plus avoir l'occasion de travailler sur un podcast, chose que nous n'avons jamais vue et jamais fait auparavant. Un podcast en plus super intéressant, qu'on peut écouter d'ailleurs sur YouTube et Spotify si jamais vous voulez aller écouter.
La fin du confinement.
Voilà. Et c'était vraiment une expérience très enrichissante. Malheureusement, je reste qu'un mois, donc j'aurai pas le temps de voir autant de choses que mon collègue Yvan et Colline, qui n'est pas présente parmi nous aujourd'hui. Mais c'était quand même super intéressant. On a participé à des reportages de manifestations et on a pu voir plein de choses sur la solidarité, sur la précarité alimentaire pendant le confinement, dont on ne se rend pas forcément compte dans notre petite cocon, dans notre petite maison à la campagne, tranquille dans notre coin. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une expérience très enrichissante.
Allez, Yvan.
Et du coup, bah, pour compléter ce qu'elle a dit, moi déjà, j'ai pas eu la chance d'avoir un très bon stage en première année. Ah oui. C'est-à-dire que c'était la période où on était confinés à ces moments-là. Donc, j'ai pu trouver un stage en télétravail dans un média en ligne. Sauf que c'est pas très bien passé. C'est-à-dire que le stage s'est vite arrêté. Et donc en fait, c'est réellement mon premier stage ici à Eau de Radio. C'est ma première expérience professionnelle. Et pour le moment, c'est terriblement enrichissant, en fait, parce que, comme a dit Marie-Amélie, on découvre la vraie vie, quoi. On met vraiment les pieds dans le plat, comme on dit. Et être au quotidien dans un open space, de pouvoir échanger les idées, de pouvoir innover, de pouvoir créer, d'avoir aussi une liberté de parole, comme là aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'agréable et c'est quelque chose qui nous donne envie de continuer, qui nous donne envie de nous améliorer. Et ça donne un regain de motivation supplémentaire, surtout en cette période difficile où on avait nos cours à distance, en visio. Là, au moins, de vraiment exercer, de pouvoir de mettre en pratique tout ça, ça fait vraiment du bien. Et pour revenir sur le podcast, c'est vrai que dès qu'on est arrivé, du coup, on a réalisé le podcast La fin du confinement, disponible sur YouTube et Spotify. Et en fait, vraiment, ça a été quelque chose de super, parce qu'en fait, on a écouté des témoignages vraiment de personnes qu'on ignorait vraiment jusque-là. C'est-à-dire qu'on affronte en fait la vraie vie, et c'est ce que je pense qu'on a tous envie de faire en fait en étant journaliste. Donc, d'avoir les bénéficiaires du Secours Populaire et d'avoir les membres du Secours Populaire qui donnent chacun leur point de vue sur la gestion de la crise sanitaire, et de mettre tout ça en lumière dans un podcast de 30 minutes. Ça a été vraiment une belle expérience et un bel accomplissement collectif. Donc j'en suis très content.
Oui, ça a été un beau travail. Heureusement que vous étiez là. Ça, je tiens à le préciser, hein, sur ce projet, parce qu'il était un projet effectivement d'eau de radio. Vous êtes arrivé que sur la partie montage. C'est dommage, parce que je pense que vous auriez beaucoup appris aussi sur le terrain en allant voir directement ces personnes-là. Mais c'est en tout cas, bon, Marie, désolée, c'est votre dernier jour, donc ça sera pas possible à eau de radio. Mais Yvan, vous allez être sur un projet des 40 ans des radios libres. Et sur ce projet-là, je pense qu'il y a matière aussi à s'éclater. Ça sera autre chose, une autre thématique, mais c'est toute la richesse de ce métier de journaliste. Et là, je donne la parole à Lucas, qui lui a un autre parcours, parce qu'il était déjà en stage l'année dernière chez nous à Eau de Radio, donc il a fait aussi d'autres reportages. On l'a coincé aussi sur ce podcast, hein, parce que on était tous, vous étiez tous dessus. Peut-être, vous n'êtes pas obligé de faire la pub pour Eau de Radio, hein, je vous le dis. Hein, là, c'est vraiment me parler de projets qui vous ont marqué.
Quand on est fier d'un projet, il faut le dire.
Ah, voilà. Alors la fin, FAI. C'est pendant qu'on y allait, Lucas, à vous.
Moi, c'est vrai que venant d'Infocom, c'est une licence qui est assez théorique et justement, les stages, c'est que la troisième année. Et l'an dernier, j'ai eu la chance déjà de me rendre compte, parce qu'on nous parle tout le temps, le métier de journaliste, c'est compliqué, etc. Et déjà, rien que dans la recherche de stage, on s'en rend compte. Franchement, ça a été très, très dur. J'ai eu la chance de trouver à Eau de Radio mon deuxième stage, mais avant, j'étais chez Radio Campus Bordeaux. Et c'est vrai que c'est pour moi l'avantage des radios associatives, c'est-à-dire que j'ai eu dès le début l'occasion de pratiquer, de me mettre derrière le micro et de m'entraîner. Et c'est vrai que au niveau notamment de la confiance en soi, parce que c'est vrai que la première fois, on a beaucoup de mal, on bégaye, on s'imagine que tout le monde nous écoute et puis on se met une pression. Et au final, ça devient naturel et franchement, c'est du plaisir. Et donc, c'est vrai qu'après ces deux stages-là, mes études se terminaient et donc j'en ai profité pour revenir ici en service civique et bosser sur le podcast de la fin du confinement dispo sur Spotify et YouTube.
En expérience qui vous a marqué, une expérience qui vous a marqué, le podcast reste l'expérience
Sur mon tout premier stage, du coup, qui était en février dernier, juste avant le confinement, j'avais eu la chance, avec Lydia qui était là à l'époque, de bosser et d'aller couvrir notamment une conférence de presse de Alain Rousset. Et je me souviens, on était assez impressionnés parce qu'au début, on pensait que ça allait être une conférence dans un amphithéâtre à 500 personnes, etc. Et au final, on s'est retrouvé dans une toute petite salle à 6 avec justement Alain Rousset, le président de la région. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a son attaché de presse qui est venu, qui nous a dit vous pouvez aller l'interviewer vite, allez-y et tout. Du coup, nous, on était en stress, on était avec les micros, on savait à peine comment ça marchait, c'était nos tout premiers et tout. Et puis, on était là, j'en ai parlé à toute ma famille et j'étais super fier de ça. Donc, c'est forcément une fierté et puis en même temps un truc très très enrichissant, c'est sûr.
Et juste pour rebondir, c'est important ce qu'a dit Lucas aussi quand on disait, quand on parlait de la difficulté du métier, c'est qu'aussi c'est compliqué d'avoir vraiment confiance en soi.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on voit un présentateur télé, un animateur radio ou même par exemple un footballeur qui tape dans un ballon, on a toujours tendance à se dire derrière l'écran que c'est facile de faire ça, mais en réalité c'est très très difficile quoi. C'est une maturité, c'est une expérience à prendre au fil du temps quoi, parce que c'est très compliqué de tenir un micro, de poser des questions et d'entretenir un dialogue pour mettre en confiance la personne interviewée. Donc c'est aussi une facette difficile du métier, je trouve.
Et c'est important de l'avouer parce que c'est vrai que quand on est journaliste, on ne peut guère montrer ce manque de confiance en soi, surtout quand on a des politiques en face où il faut tenir la baraque hein, quand même. Hein. Il faut pas être impressionné. Et quand on va effectivement avec Alain Rousset, qui a une longue carrière derrière lui, on avait Monsieur Juppé aussi. Hein, c'était pas évident non plus de tenir une interview. Et puis surtout sur à chaque fois un sujet différent où il faut avoir une certaine maîtrise de ce sujet, mais on peut jamais aussi bien le maîtriser qu'eux-mêmes quoi, sur certaines actions. Je vous propose de faire la deuxième pause musicale. Alors, Yvan a choisi la première, donc c'est à vous, Marie et Amélie. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors, moi, j'ai choisi une musique de 47 Terres, pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas très connu. La musique s'appelle Vivre, et donc, je trouvais que c'était une musique assez sympa à passer, parce qu'il parle beaucoup de prendre les choses comme ça vient, de profiter de la vie, et de pas réfléchir au lendemain. Et je pense que dans cette période de coronavirus où on a été confinés chez nous, maintenant il y a le couvre-feu, avec tout ce stress, cette anxiété et cette angoisse, c'est important aussi de penser à profiter de la vie et profiter des choses.
Ça me fait plaisir, alors on écoute.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Qu'est-ce qu'on attend pour briller ? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller ? On parle de l'avenir, mais pourquoi faire ? On se dit qu'on va partir, mais pourquoi faire ? On parle de sortir avant de le faire. Si on arrêtait de se dire ce que l'on va faire. Venez, on s'occupe de maintenant, juste de cet instant. Venez, on suit ce que nous dit notre instinct. Allons jouer les restas, va ouvrir ton resto. Profitons de la chance qu'on a de ne pas vivre à l'hosto. Parfuit, si ta vie n'est pas la bonne. Attends pas d'être un daron pour que tes questions soient les bonnes. N'attends pas derrière tes parents, lève-toi vite avec un baron. Jusqu'à ce que ta vie te fasse bander comme à tes tout premiers tarons. Qu'est-ce qu'on attend pour vriller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour vriller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour vriller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Je perds du temps à faire la même chose que lui. Je perds du temps à faire la même chose que toi. On perd du temps à vouloir faire comme celui qui rêverait peut-être de faire la même chose que moi. Plus rien n'est important si on est validé par les notes. Et on gagnerait du temps si on regardait pas les autres. S'il y avait pas tous ces gens, est-ce qu'on aurait pas fait les choses autrement? Est-ce qu'on se ment? Viens, on va prendre la route, on prend la job. On avait dit qu'on ferait tout pour faire le job. Les souvenirs de plus tard, je les veux maintenant. Le regret sera brutal s'il y a pas d'avant. Pour briller, qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? La vie n'a du sens que si tu la vois comme l'essentiel. Faites que la vie nous encense que de bons souvenirs avant d'aller dans le ciel. Faites que la vie n'a du sens que si tu la vois comme l'essentiel. Faites que la vie nous encense que de bons souvenirs avant d'aller dans le ciel. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous libre à part le temps pour nous de briller. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous libre à part le temps pour nous de briller?
De retour sur Dehors, excusez-nous, on est en train de parler en off pendant la pause musicale. On n'a pas vu venir la fin, étant donné que je ne la connaissais pas. On en est encore désolé, mais c'est parce qu'on a plein de choses à dire. Il ne nous reste plus que 10 minutes. Et sur cette dernière partie, alors justement, moi, je voulais qu'on revienne avec vous trois, puisque vous avez vécu cette expérience de médias associatifs où nous n'avons pas la même fonction que des gros médias mainstream que vous avez cités, où on n'a pas de multinationales derrière Eau de Radio. On en est désolé, mais nous, on se finance autrement. C'est la particularité des radios associatives, et c'est aussi un autre mode de fonctionnement, une autre façon de penser les choses, une autre façon de penser le journalisme. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. En tout cas, il y a aussi notre ligne éditoriale Eau de Radio, ce que je rappelle, on est la radio des Hautes-Garonne, et notamment, on agit beaucoup sur la rive droite bordelaise, on en est très fiers, puisque c'est un territoire qui encore mais qui a été encore plus stigmatisé avec, on le sait, une population multiculturelle. C'est ce qui fait sa richesse. Et nous, c'est ce qu'on a envie de montrer. C'est pas toujours le cas de tous les médias. Alors vous, comment vous la vivez, cette expérience? Est-ce que vous, ça fait que 2-3 semaines que vous êtes là, Lucas aussi. Comment vous percevez les choses et l'intérêt d'une radio associative locale, notamment dans les quartiers?
Déjà, moi, je me rends compte de l'importance, pour bien faire ce métier-là et accomplir cette mission-là, de connaître le territoire et vraiment tous les acteurs. Je me rends compte, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout, c'est quelque chose que j'ai découvert. Par exemple, vous, Sandrine, et même Joël qui travaille ici, vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez les gens, et c'est vrai que ça apporte une espèce de facilité et un contact plus facile. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai pas, que j'apprends un petit peu, mais pour moi c'est ça l'important, c'est de connaître.
Ouais.
Comme a dit Lucas, en fait pour moi la radio locale c'est un devoir en fait qu'elle soit présente. C'est-à-dire que justement là ce que vous faites ici à Eau de Radio, c'est quelque chose qui permet de mettre en lumière et de montrer le vrai côté, par exemple, en l'occurrence de la rive droite à Bordeaux, qui est trop souvent décrié et sûrement à tort, parce que moi, par exemple, je viens de Bordeaux cette année, je ne connaissais pas du tout la rive droite, ce nom, Florac, ça ne me parlait pas du tout. Et aujourd'hui, en étant ici, je me rends compte qu'en fait, il y a des choses à dire et il y a de très belles choses à montrer. Et ces choses-là, malheureusement, elles sont bien trop souvent oubliées par les mainstream, justement, comme vous disiez. Et comme a dit Lucas aussi, c'est vraiment important de connaître le territoire où on exerce sa profession, surtout quand on est journaliste. C'est-à-dire qu'on doit connaître les élus locaux, les élus nationaux, régionaux, savoir comment est financé tel endroit de la ville, comment même la radio est financée, comment elle fonctionne. Et tout ça, c'est des données à prendre en compte et à connaître avant de se lancer dans l'aventure.
Et Marie-Amélie, un commentaire à rajouter dessus?
Oui, moi, je suis d'accord. Ça rend vraiment compte, en fait, que le média associatif, c'est complètement différent que des grands médias. On traite l'information différemment. Encore une fois, on n'a pas la course au clic, à l'actualité chaude, etc. Et ça permet de poser, de prendre le temps de vérifier l'information et de donner la parole comme les gens de la rive droite, justement, le méritent, de les représenter comme il faut, de casser ces stéréotypes et de bien les représenter.
En tout cas, merci de votre participation. Je voulais terminer donc cette émission. Là, on n'a pas beaucoup parlé de votre parcours en tant que futur journaliste. Là, j'ai envie de parler plutôt de vous vis-à-vis de votre âge. Hein. Vous êtes jeune, vous avez 21, 23 et 19 ans. Je le rappelle, on dit plus qui, on va pas citer qui est le plus jeune ou le plus vieux ici ou qui a redoublé ou pas. Voilà.
Ça, c'est marrant, ça.
Et non, juste, allez, on est dans une période très particulière, c'est difficile ce qu'on vit, ça fait, je le disais, presque un an, pas tout à fait encore, mais bon, on sait qu'on va en avoir encore pour quelques mois, de cette situation sanitaire. Quand on est jeune, comment on vit ça? Enfin, c'est quand même, être confiné à 20 ans, ça doit être plus ou moins horrible hein, quand même. Hein. Quand on en a 40, on voit les choses un peu différemment. Et puis, je voulais que vous parliez directement aussi aux générations, à votre génération qui nous écoute.
Eh ben, d'abord, je voudrais dire que, comme nous tous ici, on a vécu une période qu'on n'oubliera jamais de notre vie, qui était vraie. 2020, c'était une année hors du commun avec le coronavirus. Et si j'avais un mot à faire passer aux jeunes, c'est accrochez-vous, vous dire que vous avez encore de la chance d'être en études à l'heure actuelle, parce que les années à venir, je pense que économiquement, elles seront très, très, très difficiles. Donc, profitez des études, profitez de la culture, des programmes scolaires, parce que c'est vrai que même moi, sur le moment, on est un peu saoulé, on est un peu blasé d'étudier de l'art, de la géographie, de l'histoire. Et après coup, on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement enrichissant et qu'on a la chance d'être dans un pays où gratuitement, sans frais, on nous enseigne ça. Il y a des gens qui sont payés pour nous enseigner ça. Et c'est une chance inouïe. Donc, profitez de ces années-là. Accrochez-vous. Protégez-vous les uns les autres, forcément. Les distanciations sociales, tout ça, on connaît à force. Et puis voilà, quoi, le meilleur.
Allez, Lucas, tu veux dire un petit
mot ? Moi, c'est vrai qu'au niveau de cette période, ça a été franchement compliqué, parce que c'est vrai que quand on a 20 ans, on sort, et puis on a une espèce de liberté à partir de la majorité, etc. Et donc, c'est vrai que tout s'arrête d'un coup comme ça. Ça fait super bizarre. Après, on se dit que ça durera pas non plus éternellement et que tout ça reviendra. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Et puis, concernant les jeunes, ouais, je partage totalement ce qu'a dit Yvan. Accrochez-vous, mais même si des fois, c'est pas facile. Moi, j'ai encore beaucoup à m'accrocher pour y arriver, mais c'est vrai que quand on bosse dans quelque chose qu'on aime, ça donne beaucoup plus de motivation, et même pour se lever le matin, c'est plus facile.
Allez, Marie.
Et moi, du coup, pour rejoindre ce que vient de dire Yvan et Lucas, je suis totalement d'accord, ça a été une période très difficile, parce qu'encore une fois, voilà, c'est la période où on a 20 ans, on est jeune, on sort, on profite, on rencontre de nouvelles personnes, et là, bah, tout s'arrête, notre vie sociale est quasiment à zéro, on sort pas, on a nos cours en distanciel, c'est parfois compliqué, beaucoup de gens décrochent. C'est compliqué de se raccrocher, on n'a plus de contact direct, parfois avec nos familles, et parfois quand on est étudiant, on se retrouve confiné dans nos petits appartements. Et je pense que c'est compliqué pour le moral, pour beaucoup de jeunes d'entre nous, parce que nous, encore, on a la chance d'être en stage jusqu'au mois de mars l'année prochaine, mais il faut savoir que les étudiants ne vont pas retourner aux universités avant février 2021, et si les cas le permettent. Donc je pense que c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux qui doivent beaucoup décrocher de moi, les articles que j'ai lus, etc. Donc je pense que voilà, pour rejoindre Yvan, il faut s'accrocher et pas perdre espoir, même si c'est compliqué, se dire qu'il y a un jour on va retrouver notre vie normale et qu'on en profitera d'autant plus, et des petits plaisirs de la vie justement dont on ne se rendait pas compte avant toute cette histoire.
Alors qu'est-ce qui vous manque, les petits plaisirs de la vie là?
Et ben, je vais faire une petite dédicace à Lucas, mais par exemple quand on parlait d'aller boire après les cours une petite pinte ou un demi-pêche au Kosan, Yvan saura de quoi je parle.
Mais forcément, on voit
c'est
de quoi tu
au
parles,
soleil Marie. On en a marre d'une journée de cours entière, d'avoir fait du 8h 17h voire du 18h30 parfois. On se dit bon bah allez, on va se prendre une petite bière, ou parfois c'est le week-end, on se dit bon bah on sort, on va faire la tournée des bars, on va voir nos amis, on va faire nos soirées, fêter nos anniversaires. Moi je sais que voilà, dans un mois j'ai 20 ans et je pense pas que mes 20 ans je pourrais les fêter, quoi, alors que normalement les 20 ans, les 18 ans c'est le moment où on profite, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi.
Ouais. Mais c'est marrant en plus ce qu'a dit Marie-Amélie, parce qu'au final, tous les petits plaisirs de la vie, sur le moment, on se rend pas compte que c'est des petits plaisirs de la vie. C'est-à-dire que boire un verre, aller au restaurant, aller au cinéma,
ouais, ça paraît
normal. Et maintenant, c'est dans les normes, en fait, de se faire une fois par semaine, je sais pas, un restaurant, un fast-food. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui manque le plus, je crois. C'est que, au moins, peut-être qu'au final, malgré tout ça, dans quelques années, dans les années à venir, peut-être on pourra se dire que ça permet de, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça permettra de réapprendre à apprécier la vie.
Ouais. C'est le dernier mot. On arrête là, Lucas, Noé. Alors Lucas, on termine quand même par votre musique, peut-être vous en avez choisi aussi une. Non, ben Lucas n'a pas choisi de musique, dommage.
En j'étais tout cas, un petit peu pris de court, mais
ouais, bah, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci à vous, je rappelle, donc Marie-Amélie Husson, Yvan Branchy, Lucas Segui, tous les trois en ce moment à O2 Radio. Merci à vous pour votre participation.
Merci à vous.
Merci à vous pour votre aussi joie de vivre, tout ce que vous faites pour O2 Radio en ce moment. Et puis on réécoute cette émission le samedi 26 décembre à 14 ou 15 heures, si Nico, 15 heures ou 14 heures ? 15 heures, je crois. Allez, rediffusion à 15 heures. Autrement, vous retrouvez ça sur notre site internet www.odeuradio.fr. Ah oui, je vous souhaite quand même de très bonnes vacances, très bon réveillon le 24 décembre. Une très bonne année si on n'a pas l'occasion de s'écouter d'ici là, puisque je serai, moi, pour ma part, en vacances dès la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Bonne fête.
Et bonne fête.
Bail de jeunes, l'émission jeunesse tous les mercredis de 14h à 15h en direct sur O2 Radio 91.3 FM et sur O2 Radio.fr.